Chapitre 23. Charlize Garzy avait l'air d'un homme brisé. La mâchoire butée, le menton obstiné, les épaules solides. Il n'en restait plus rien. Au lieu de cela, effondré sur le canapé de sa mère, il semblait défait et regardait Didi et Phil avec des yeux rougis. « Vous ne comprenez pas !» disait-il d'une voix pâteuse.
« Jamais elle n'ouvrait sans avoir regardé par le Judas !»
Et en aucun cas elle n'aurait laissé entrer un inconnu, même en pleine journée. « À quelle heure croyez-vous que mon cousin a été assassiné ?» Didi hocha la tête. Elle se souvenait d'avoir entendu Sgarzi dire que sa mère vivait plus ou moins en recluse. Et pourtant, quelque part entre 14 et 16 heures, d'après la première estimation du légiste, le tueur à la rose était entré chez Janet Sgarzi, avait drogué la vieille mère cancéreuse de Charlie et emporté son pauvre corps de 45 kilos jusqu'à la chambre, où il avait mis son projet à exécution. Charlie avait découvert le crime peu après 19 heures, en apportant le dîner. Comme Phil lui avait laissé sa carte à la fin de leur entrevue, il avait aussitôt appelé. Et Phil avait à son tour fait venir Alex pour qu'il lui prête son concours dans l'analyse de la scène, ainsi que Didi en qualité de consultante indépendante. Alors qu'ils étaient en train d'aller chercher Jack chez ses grands-parents, Alex et Didi avaient fait demi-tour en voiture et informé les babysitters compréhensifs qu'ils se rendaient sur les lieux du dernier meurtre du tueur à la rose, une coquette maison de South Boston qui sentait à plein nez les vieux souvenirs et la chair fraîche.
Nous pensons que l'assassin se fait peut-être passer pour un employé d'entreprise de surveillance, un dératiseur ou autre, dit Phil. Est-ce que votre mère aurait ouvert à un livreur, par exemple?
Pourquoi la presse n'en a-t-elle rien dit? Explosa Sgarzi.
Parce que nous n'avons trouvé aucun témoin pour confirmer notre théorie, répondit Phil avec douceur. Ce n'est encore qu'une hypothèse, liée à la facilité avec laquelle l'individu pénètre chez ses victimes. Vous dites que votre mère était prudente.
Ça oui.
Se pourrait-il qu'elle ait été endormie en plein après-midi?
Elle fait des siestes, oui. D'ailleurs, elle est proche de sa fin. Il y a plus de mauvais jours que de bons et les médecins ne peuvent. Enfin, il n'aurait rien pu faire. Et merde! Une minute, d'accord?
Le salon exigu n'offrait guère de place pour s'isoler. Sgarzi s'approcha avec raideur de la cheminée en briques
et se mit à en contempler la tablette.
La maison rappelait le studio de Sgarzi, pensa Didi. Petite, mais bien entretenue. Meubles dépoussiérés, tapis aspirés. Elle se demanda si Janet faisait encore le ménage, ou si c'était parfois son fils qui s'en chargeait. Très probablement la seconde hypothèse, étant donné la brusque dégradation de son état de santé. Du reste, Sgarzi avait aussi apporté son dîner à sa mère ce soir-là. De la soupe, achetée dans un de ses restaurants préférés, avait-il expliqué, puisqu'elle avait de plus en plus de mal à avaler des aliments solides. Didi ne pouvait pas imaginer ce que cela avait dû être d'entrer, d'appeler sa mère souffrante et de ne recevoir aucune réponse. Puis, avec une pointe d'inquiétude, d'aller dans la chambre du fond et d'y découvrir que ses pires craintes étaient encore bien en deçà de la réalité. Sgarzi ouvrait et fermait convulsivement les poings. Didi se demanda s'il allait frapper la cheminée ou crever la vieille cloison jaunie. Mais avec un effort visible, il se ressaisit. Un dernier frisson, et il se retourna vers eux, hagard.
C'est Chanadé qui a fait ça, affirma-t-il en perforant l'air d'un index affirmatif.
Allons, Charlie, protesta Phil.
Il n'y a pas de « Allons, Charlie ». Je suis à deux doigts de dénoncer son petit manège et elle le sait. Je pensais enquêter sur de l'histoire ancienne quand j'ai commencé à me renseigner sur elle. Mais la première chose que j'ai apprise, c'est qu'elle avait des yeux et des oreilles à l'extérieur. Et maintenant, elle s'en sert. Elle s'est trouvée une marionnette tueuse qui peut faire tout le boulot pendant qu'elle, elle tire les ficelles depuis sa cellule. Un alibi en béton, hein? Shanna n'a pas pu tuer ma mère, puisqu'elle est déjà en tôle. Et pourtant si, elle l'a assassinée pour se venger de moi. Et le pire, c'est qu'elle se tord de rire parce qu'elle sait que vous ne pouvez rien faire. Voilà ce que lui ont appris 30 ans de prison. Comment commettre le crime parfait?
Votre mère aurait-elle ouvert à un livreur ? Insista Phil.
Je ne sais pas. J'imagine.
La maison est équipée d'un système de surveillance ? Demanda Didi.
Oui, il y a une alarme.
Des caméras ?
Non, juste des détecteurs aux portes et aux fenêtres.
Le nom de l'entreprise ?
Sgarzi le fournit.
Phil le nota. Est-ce que votre mère aurait signalé l'arrivée d'un nouveau voisin dans le quartier ? Un inconnu qu'elle aurait surpris à rôder ? Un locataire qui viendrait d'emménager ?
Non.
Se serait-elle sentie surveillée ?
Ma mère ne sortait pas de chez elle et vivait les stores baissés. Comment aurait-on pu la surveiller ?
Un point pour lui, pensa Didi. Des visites d'une infirmière à domicile, d'un autre professionnel de santé ? Intervint-elle.
Oui, deux fois par semaine, pour des soins d'infirmerie. Ma mère aurait eu besoin de plus d'aide, évidemment, mais c'était tout ce que nous pouvions nous offrir.
Infirmier ou infirmière ?
Madame Elliott, une dame d'un certain âge, assez gentille. Ma mère l'aimait bien.
Toujours la même ?
En général. Et quand elle avait un empêchement, on nous envoyait un remplaçant, mais jamais sans nous prévenir. Et puis elle venait le mardi et le vendredi, donc on n'attendait personne avant demain.
Est-ce que les voisins ont vu quelque chose ? Demanda Sgarzi, en sautant directement au sujet suivant.
Le type a dû attendre devant la porte, sous le nez de toute la rue.
L'enquête de voisinage est en cours, lui assura Phil, d'une voix lénifiante.
Autrement dit, vous n'avez rien, les accusa Sgarzi. Si un de vos agents civils avait un tuyau intéressant, vous seriez au courant.
Quel fils de pute !
Il se retourna, reprit sa contemplation de la cheminée. Vous disiez que vous apportiez son dîner à votre mère, reprit Didi. Et pour le déjeuner ?
Elle prend une de ses boissons nutritives, en sûre, un truc comme ça.
Didi fixait le dos du journaliste. Et elle prenait une collation dans l'après-midi ? Parce qu'il y a deux assiettes et deux verres dans l'évier.
Quoi ?
De nouveau, Sgarzi se retourna, les yeux écarquillés. Avant qu'il puisse le retenir, il était déjà dans la cuisine.
« Ne touchez à rien !» lança Phil derrière lui.
Le bras du journaliste se figea au moment où il allait saisir le premier verre dans l'évier en inox. « Pièce à conviction !» expliqua Didi. Sgarzi baissa la main.
« Elle a eu un invité !» dit-il d'une drôle de voix, troublée.
« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»«
Maman ne mangeait plus grand-chose depuis des semaines. » Les effets secondaires des médicaments, la douleur. Je lui apporte son dîner. Elle prend un petit déjeuner léger et un substitut de repas pour le déjeuner. Mes deux assiettes, deux verres. Et son beau service en plus. Elle ne le sortait que pour les grandes occasions, quand il y avait un invité par exemple.
Charlie, demanda posément Didi. Est-il possible que votre mère ait connu la personne qui s'est présentée à sa porte cet après-midi ? Et que ce soit pour cette raison qu'elle l'a laissé entrer ?
Je ne sais pas, répondit Sgarzi, hébété, à 100 lieues des certitudes qu'il affichait précédemment.
Quand elle avait un invité, que lui offrait-elle ? Demanda Phil.
Des biscuits, du thé avec des petits gâteaux, ce genre de choses.
Sgarzi ouvrit un placard et en sortit un paquet jaune qui semblait entamé depuis peu. Il manquait deux biscuits.
Quel fils de pute ! Répéta Charlie.
Il va nous falloir une liste des amis et relations de votre mère, indiqua Phil.
Inutile. Ma mère souffrait d'un cancer en phase terminale. Les gens qui la connaissaient ne venaient pas la voir pour qu'elle leur offre des petits gâteaux. Ils lui apportaient à manger. Cet invité était un étranger pour elle, vous voyez ? Le genre de personne dont vous êtes en train de faire connaissance, pour qui vous vous mettez en frais.
Sgarzi regarda le paquet de biscuits, comme s'il pouvait lui parler.
Un ami d'amis, par exemple, murmura-t-il. Quelqu'un qui aurait affirmé me connaître ou une ancienne relation, de retour dans le quartier.
Quelqu'un qui aurait connu Denis, conclut-il d'un seul coup.
Ou qui aurait prétendu posséder des informations sur lui.
Il leur lança un regard. Elle aurait ouvert sa porte à quelqu'un comme ça. elle l'aurait invité à entrer. Elle lui aurait offert des biscuits sur ses plus belles assiettes. Elle aurait fait un effort pour quelqu'un qui avait connu Denis. Je vous le dis, c'est Chanadé qui a tué ma mère. Et il faut vraiment que vous soyez con pour ne pas l'en avoir empêché.
Didi ne prit pas la peine de répondre. L'absence de preuves à l'appui de sa théorie, le respect des procédures, le béaba du travail d'enquête, ces questions n'intéressaient pas Charlie Sgarzi. Ce qu'il voulait réellement, c'était la seule chose qu'il ne pourrait jamais lui rendre. Sa mère. Phil réussit à le renvoyer dans le salon et demanda au technicien de scène de crime de procéder au relevé des empreintes sur la vaisselle de l'évier et dans toute la cuisine. Il venait d'obtenir que Sgarzi commence à dresser la liste des amis et voisins de sa mère quand Alex les rejoignit. Il avait une expression que Didi ne lui avait jamais vue. Pas seulement d'une extrême gravité, mais aussi profondément bouleversée. D'un signe, il l'invita à le suivre. Pas un mot de mise en garde, pas une parole d'encouragement. Alors Didi sut que ça allait être insoutenable, avant même d'avoir mis les pieds dans la chambre. La pièce du fond était minuscule, et elle avait certainement été conçue comme un cabinet de travail avant d'être convertie en chambre, lorsque l'état de santé de Janet Sgarzi s'était dégradé au point qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers de cette charmante demeure de style colonial. Un lit médicalisé, avec barrière métallique, occupait la quasi-totalité de l'espace. Repoussé contre le mur, il bloquait une porte qui devait ouvrir sur le jardin. Au chevet, une vieille table de nuit en chêne, avec une carafe d'eau, une kyrielle de flacons de pilules orange et, bien entendu, une bouteille de champagne et une rose rouge. Didi regarda fixement ces deux objets un bon moment, parce que s'attendre à la vision qu'elle était sur le point de découvrir ne rendait pas l'idée plus supportable. « Pas de menottes en fourrure », constata-t-elle. « Non », confirma Alex. Là où il se trouvait, il lui bouchait la vue du lit. Tous deux se tenaient au coude à coude dans l'embrasure de la porte. Pour qu'elle avance, il aurait fallu qu'il recule. Il y a plusieurs différences avec les meurtres précédents, continua Alex, à la fois en ce qui concerne la victime et le mode opératoire. Mais ceci explique peut-être cela. Si on prenait les choses dans l'ordre, la victime, Janet Sgarzi, 68 ans, vivait seule et souffrait d'un cancer en phase terminale. Le fait qu'elle vivait seule est cohérent avec le profil de nos victimes, mais son âge et son état de santé font d'elle un cas à part. Nous sommes passés du meurtre de célibataire relativement jeune à celui d'une vieille maman malade. Et l'acte a été commis en plein jour, ajouta Didi. Le risque était plus élevé. Oui, Pat s'en hardit. Cela dit, cette victime avait la réputation d'être prudente et elle n'aurait sans doute pas ouvert sa porte à la nuit tombée. J'ajoute que même si elle vivait seule, Charlie dormait souvent ici en raison de sa maladie. Donc, dans ce cas précis, une agression nocturne aurait été plus risquée. Le tueur avait dû l'épier, forcément pour tenir compte de tous ses paramètres. On s'en doutait déjà, dit Alex. Pat ne laisse rien au hasard. Il prépare ses coups. Ce qui explique qu'on n'ait toujours aucune idée de son identité, même après 4 intrusions.
4?
3 meurtres, plus chez nous, également en pleine journée. Didi se raidit.
Il s'exerçait. Je te parie tout ce que tu veux. Ce connard voulait faire mumuse avec nous, d'accord? Mais il voulait aussi s'exercer. Il avait déjà choisi sa prochaine victime, Janet Sgarzi, une victime qu'il lui faudrait aborder 2 jours. Alors il a peaufiné ses méthodes de repérage et d'intrusion chez nous. Merde !
Alex posa une main sur son épaule. Pas pour la réconforter, pour l'inviter au silence. Didi, dit-il avec une immense gravité. Aussitôt, elle se tut. Pour en revenir à notre analyse, reprit-il sur un ton solennel.
« D'accord.
Pat prépare son coup à l'avance. Dans le cas présent, il va devoir approcher sa victime de jour. Vu son âge et son état de santé, il n'a sûrement aucun doute sur sa capacité à la maîtriser, même au cas où elle soit éveillée et pleinement consciente. Mais il semblerait que par précaution, il ait apporté un sédatif incolore, inodore et sans saveur. Ben a retrouvé un flacon contenant des traces de rohypnol dans la poubelle. Pat a dû droguer Janet. Il y a de la vaisselle pour deux dans l'évier, l'informa Didi, comme si Janet avait offert un goûter à un invité. Des biscuits à la figue. Alex fit la grimace. Le plus probable est que Janet n'a rien senti, dit-il. Comparé au ravage du cancer, on pourrait même soutenir que c'était une fin moins pénible. En tout cas, une mort moins douloureuse. N'empêche. Il fit un pas en arrière et lui laissa voir le grand lit d'hôpital. Malgré elle, Didi fut prise d'un haut-le-cœur. Janet était déjà morte, se rappela-t-elle. Déjà morte, déjà morte, déjà morte, déjà morte. N'empêche, comme le disait Alex, que cela restait une vision d'horreur. Fidèle à sa méthode, le tueur à la rose avait écorché le buste et le haut des cuisses de Janet Scarzi. Mais contrairement aux deux premières victimes, des jeunes femmes en relativement bonne santé, Janet était déjà en train de dépérir sous l'effet d'une cruelle maladie. Il ne lui restait plus que la peau sur les os. Autrement dit, quand le tueur avait retiré la peau, Didi porta sa main à la bouche, par réflexe. Voilà une scène de crime qui lui laisserait une marque indélébile. Il y a des traces d'hésitation, indiqua Alex. Pardon ? Sur l'extérieur de la cuisse et sur la cage thoracique. On voit que la peau est déchiquetée, découpée de manière irrégulière. À son troisième meurtre, l'assassin aurait dû avoir moins de résistance intérieure à surmonter. Il aurait dû posséder une technique plus maîtrisée et minutieuse. Au contraire, il a eu du mal avec cette victime. À cause de son âge, suggéra Didi, c'était plus difficile de s'en prendre à une vieille dame. Pas de menottes en fourrure, ajouta Alex, les objets les plus explicitement sexuels qu'il laissait derrière lui. Dans l'hypothèse où il s'agirait d'une meurtrière qui tuerait des jeunes femmes pour collectionner des lanières de peau sans défaut. Une vieille dame ferait tache dans le tableau. Elle n'est pas son type. Mais sommes-nous même certains que c'est bien l'œuvre du tueur à la rose et pas d'un imitateur ? Oui, confirma Alex. Malgré les traces d'hésitation, l'absence de menottes, Janet Scarzi est bien sa troisième victime, l'interrompit Alex. 153, Didi. Voilà à quoi j'étais occupée tout à l'heure. Compter des lanières de peau humaine. Et Dieu sait que j'espère ne plus jamais avoir à faire une chose pareille de toute ma vie. Mais je suis tombée sur le nombre magique. 153. Didi ne répondit pas tout de suite. La gorge nouée, elle ne pouvait pas avaler, encore moins parler. Pas étonnant qu'Alex ait eu cet air lugubre. De toutes les scènes qu'il avait eues à analyser. « Je suis désolée, » dit-elle finalement. Janet Scarzi est une victime du tueur à la rose, continua posément Alex. Mais elle n'était pas son type préféré. Donc, un autre critère a dû la désigner comme cible. Charlie Scarzi pense que Shanadé est derrière ce meurtre, qu'elle a ordonné au tueur d'assassiner sa mère pour le punir d'enquêter sur elle, ou pour le dissuader de continuer. Dans ce cas, je crois que c'est raté, parce qu'il a juré de se venger. Ou alors, Janet savait quelque chose, suggéra Alex. Comment ça ? Shanadé se tient tranquille à l'isolement depuis près de 30 ans, n'est-ce pas ? Exact. Et tu penses que d'un seul coup, elle entretiendrait une communication codée avec un tueur en série qui serait apparu à Boston par génération spontanée et qui prendrait modèle sur un autre assassin mort depuis des lustres. Voilà. Alors on en revient à notre question du jour. Pourquoi aujourd'hui ? Quel serait l'événement déclenchant ? Le 30e anniversaire du meurtre de Donnie Johnson ? Plutôt arbitraire, si tu veux mon avis.
Didi lui lança un regard appuyé.
Nous avons déjà eu cette conversation, et crois-moi, tu as parfaitement mis ma sagacité en doute dès la première fois.
Je ne mets pas ta sagacité en doute. J'avance une théorie. Janet Sgarzi n'était pas seulement la tante de Donnie Johnson. Elle était la mère de Charlie. C'est-à-dire du journaliste qui, il y a tout juste quelques mois, a commencé à poser de nouvelles questions sur la mort de son cousin.
Didi le regarda avec perplexité.
Tu veux dire...
L'histoire de la date anniversaire, c'est subjectif. En revanche, rouvrir une enquête sur un assassinat. Et si Shana Day avait réellement un ami qui date de cette époque? Et si cette personne possédait des informations ou avait commis des actions qu'il ou elle ne pouvait pas se permettre de voir ressurgir, même après des décennies?
Le véritable objectif du tueur à la rose ne serait pas de mettre en scène une macabre série de meurtres évoquant Harry Day, murmura Didi. Ce serait d'étouffer une ancienne affaire, parce qu'il n'y a pas de prescription en cas d'homicide. Pat a encore tout à perdre.
Et un point faible bien réel, fit remarquer Alex d'un air farouche. Shana Day.